Alors, bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule audio. Mon nom est Annie Roy, je suis conseillère juridique à la PES et je suis en compagnie de ma collègue Charline Ferrier, également conseillère juridique à la PES. Bonjour Charline.
Bonjour Annie.
Alors Charline, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ensemble?
Alors écoute Annie, on va parler de harcèlement psychologique parce qu'il faut comprendre que depuis les dernières années à la PES, on a une augmentation des appels de nos membres qui ont l'impression de faire l'objet d'harcèlement psychologique. Il faut comprendre que les allégations de harcèlement psychologique, elles mettent souvent en lumière des situations qui sont complexes, qui perdurent depuis plusieurs mois, voire même des années. Plusieurs personnes sont généralement impliquées dans de tels cas, et il arrive même parfois que les intérêts de deux membres de la PES s'opposent. D'ailleurs, en décembre 2017, le conseil d'administration de la PES a adopté une politique de représentation de ses membres en matière de relations de travail qui vient préciser l'étendue des services offerts par la PES. Un complément qui porte uniquement sur les situations de harcèlement psychologique a été jugé nécessaire pour venir préciser comment la PES intervient dans ce type de situation, et c'est ce dont nous allons parler plus précisément aujourd'hui. En ce qui concerne la politique générale de représentation des membres, ben on vous invite à la lire ou à lire la chronique qui en expose les grandes lignes. Vous trouverez le lien de la politique et de la chronique joint à la capsule audio que vous écoutez présentement. Maintenant, revenons à nos moutons. En ce qui concerne la capsule audio d'aujourd'hui, son contenu vise uniquement les situations présumées de harcèlement psychologique. Donc, on va d'abord vous expliquer c'est quoi le harcèlement psychologique, les différents types de recours qui existent, le rôle de la PES, le rôle du pharmacien gestionnaire et le rôle du pharmacien selon les différentes situations dans lesquelles il peut se trouver. Annie, tout d'abord, peux-tu nous expliquer c'est quoi le harcèlement psychologique?
Oui, avec plaisir. Écoute, Charline, pour qu'il y ait du harcèlement psychologique au sens de la loi, il faut absolument que les quatre éléments suivants soient présents. Donc, d'abord, il doit y avoir une conduite vexatoire. Une conduite vexatoire, c'est quoi? Bien, c'est une conduite qui va être abusive, humiliante, offensante pour la personne, finalement, qui l'a subie. Ensuite, la conduite vexatoire doit porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié. Le troisième élément qu'il faut qu'il soit présent, c'est que la conduite doit se manifester par des comportements, des paroles, des actes, des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés. Quand on parle d'hostile, on réfère à des gestes, des paroles, des actes, des comportements qui sont agressifs, menaçants pour la personne qui les subit. Quatrième élément, c'est que tout ça doit entraîner pour le salarié un milieu de travail néfaste. Donc, je le répète, les quatre éléments dont je viens de faire mention doivent être présents pour qu'on soit en situation de harcèlement psychologique fondé où les tribunaux, finalement, vont donner raison aux salariés qui disent subir du harcèlement psychologique. Il est à noter que, d'ailleurs, les plaintes sont souvent rejetées puisqu'il y a un des quatre éléments qui manque, finalement, qui est manquant dans la situation. À ce moment-là, les tribunaux ne pourront pas reconnaître qu'une situation de harcèlement psychologique. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus qu'une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si ça porte atteinte et produit un effet nocif continu, si ça porte une telle atteinte finalement, puis si ça produit un effet nocif continu pour le salarié. On peut penser, par exemple, comme le harcèlement sexuel est maintenant inclus dans la notion de harcèlement psychologique, bien, un collègue de travail qui donnerait une tape sur les fesses à un autre collègue de travail dans le milieu de ses fonctions. Par ailleurs, concrètement, le harcèlement psychologique peut évidemment s'exprimer de plusieurs façons. Si on donne des exemples, ça peut être de ridiculiser la personne ou son travail, isoler quelqu'un, l'empêcher de s'exprimer. Ça peut être d'avoir des propos ou des gestes offensants, diffamatoires, humiliants, ou encore déstabiliser la personne, la menacer ou même l'agresser physiquement dans certains cas.
C'est parfait pour la définition, Annie. Par contre, ce que je suggère, c'est qu'on distingue le harcèlement psychologique du droit de gérance de l'employeur. C'est assez important parce que le droit de gérance de l'employeur, c'est le droit pour lui de mettre en place des mécanismes qui lui permettent de contrôler et d'évaluer le comportement et le rendement de ses employés, mais aussi de prendre des décisions en fonction des besoins de l'établissement. Il arrive souvent que les situations alléguées qui nous sont soumises ne soient pas vraiment du harcèlement psychologique, mais plutôt l'exercice normal du droit de gérance. Par exemple, la gestion de la discipline, du rendement ou de l'absentéisme, ou encore l'application de la gradation des sanctions, ça constitue l'exercice légitime du droit de gérance. Évidemment, il faut faire attention, l'employeur ne doit pas abuser de son droit de gérance, par exemple, en surveillant de façon excessive ou encore sans motif le salarié. Pour le bénéfice de nos auditeurs, Annie, on pourrait peut-être discuter plus précisément de trois situations, soit la situation où un pharmacien est harcelé par un tiers, la situation où un pharmacien est accusé d'harcèlement par un tiers et finalement, quand deux pharmaciens s'opposent dans un cas d'harcèlement. À partir de ces trois situations, on pourrait décrire les recours qui sont possibles, le rôle du pharmacien, le rôle du pharmacien gestionnaire impliqué et où est-ce que l'APES intervient pour soutenir les membres.
Oui, bonne idée, Charline. Allons-y donc avec la première situation qui peut se présenter, soit celle que tu as énoncée, qui est un pharmacien qui est harcelé ou qui se sent harcelé par un tiers. Donc, on peut penser, admettons, à une infirmière, un assistant technique en pharmacie. Donc, un tiers qui n'est pas membre du CMDP, donc qui n'est pas médecin, dentiste, ni un autre pharmacien. Dans un premier temps, quand un pharmacien a l'impression de faire l'objet de harcèlement psychologique par un tiers en établissement de santé, il doit aller vérifier s'il y a une politique de l'établissement sur le harcèlement et la violence en milieu de travail. Souvent, c'est le nom qu'on donne à cette politique-là. Si, effectivement, il y a présence d'une telle politique qui a été adoptée par le conseil d'administration de l'établissement, bien, le pharmacien doit regarder, lire cette politique-là et suivre les différentes étapes qui sont prévues. Normalement, ce qui est conseillé, évidemment, pour régler la situation dans ces politiques-là avant toute autre intervention, c'est de dénoncer la situation à la personne qui est le présumé harceleur. Si ça ne fonctionne pas, ce qui est le cas parfois, on peut demander à notre supérieur immédiat d'intervenir ou même ultimement déposer une plainte en vertu de la politique de harcèlement et de violence en milieu de travail de l'établissement. Dans ce dernier cas où il y a dépôt d'une plainte, on se retrouve dans une situation, disons, d'accompagnement qui est double pour le pharmacien. Il va être d'une part accompagné par les ressources humaines de l'établissement, si évidemment la direction des ressources humaines juge qu'il y a effectivement du harcèlement psychologique, et il va être accompagné de l'autre part par l'APES, à titre de membre de l'APES, dans le cadre des services qui sont offerts. Alors, normalement, ce qui est prévu dans cette politique-là, ce qui est conseillé pour régler la situation avant toute autre intervention, c'est de dénoncer la situation au présumé harceleur. Si ça ne fonctionne pas, ce qui est parfois le cas, on peut demander, on conseille à la personne dans la politique de demander à son supérieur immédiat d'intervenir ou, ultimement, le pharmacien pourrait déposer une plainte de harcèlement psychologique en vertu de la politique de harcèlement psychologique et de violence en milieu de travail de l'établissement. Dans le cas où il y aurait dépôt d'une plainte, on se retrouve dans une situation d'accompagnement double pour le pharmacien. C'est-à-dire qu'il va être accompagné d'une part par les ressources humaines, si évidemment les ressources humaines ont jugé que c'est effectivement une situation de harcèlement psychologique, et il va être accompagné de l'autre part par l'APES dans le cadre des services que l'APES rend à ses membres. Dans tous les cas, évidemment, on vous conseille de contacter l'APES pour vous faire accompagner et vous faire conseiller dans une telle situation. Ce qui est important de retenir aussi dans tout ça, au niveau du harcèlement psychologique, c'est que dans le milieu de travail, c'est l'employeur qui a la responsabilité de fournir un milieu de travail qui est exempt de harcèlement psychologique. La loi impose à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et de le faire cesser s'il y a une conduite de ce type-là qui est portée à sa connaissance. Le rôle du pharmacien gestionnaire comme tel, à titre de représentant de l'établissement, bien, ça va être évidemment de faire cesser le harcèlement psychologique s'il y a une telle situation qui existe. Pour ce faire, le pharmacien gestionnaire va se faire accompagner par la direction des ressources humaines dans son rôle de pharmacien gestionnaire. Donc, si on revient à notre situation comme telle, où le pharmacien se sent harcelé, où il y a eu dénonciation à la personne, ça n'a pas fonctionné, où il y a eu une demande au supérieur immédiat d'intervenir et ça n'a pas fonctionné non plus, le pharmacien qui croit toujours être victime de harcèlement psychologique peut demander à l'APES de déposer un différend en vertu de l'entente de travail pour forcer l'établissement à agir dans la situation de harcèlement psychologique.
Alors justement, Annie, quel est le rôle de l'APES dans ce type de situation?
Bien, écoute, Charline, il faut garder en tête que l'APES, contrairement à l'employeur, n'a pas de pouvoir d'intervention dans le milieu lui-même. L'association est là pour conseiller, accompagner les membres dans le processus de dénonciation et, évidemment, si l'employeur ne prend pas les moyens pour faire cesser le harcèlement, l'APES est là pour prendre les recours nécessaires. C'est certain qu'avant de déposer un recours, l'APES doit procéder à une évaluation sérieuse des faits au dossier en vertu de la politique générale dont nous avons parlé plus tôt, en tenant compte des 5 critères suivants. Donc, les critères l'APES va évaluer pour décider s'il va prendre un recours ou pas, ce sont les droits, évidemment, du membre ou des membres concernés, les chances raisonnables de succès du dossier. S'il y a une offre de règlement hors cours qui est déposée par une des parties, l'APES va en tenir compte également. Il va y avoir évidemment le devoir de représentation de l'APES qui va être pris en compte et finalement l'équité entre les membres de l'APES eux-mêmes. Donc, maintenant qu'on a vu la première situation où c'est le pharmacien qui se sent harcelé par un tiers, peut-être, Charline, pourrais-tu nous parler de la deuxième situation qui pourrait survenir?
Parfait, Annie, oui. Alors, en fait, la seconde situation, ce serait la situation où c'est un pharmacien qui harcèle un tiers. Prenons l'exemple d'un ATP. L'ATP juge qu'il fait l'objet de harcèlement psychologique de la part d'un pharmacien. On peut penser que, dans un premier temps, l'ATP va aviser le pharmacien de cesser le comportement qu'il juge harcelant. Le rôle du pharmacien à ce moment-là, c'est de cesser le comportement si celui-ci est effectivement inapproprié. À ce stade-ci, le pharmacien peut nous contacter à l'APES pour se faire conseiller sur la façon d'intervenir dans la situation. Dans un deuxième temps, on peut penser que l'ATP va contacter le pharmacien gestionnaire qui, lui, va avoir l'obligation de faire cesser le harcèlement psychologique, comme on l'a vu plus tôt. Il est probable aussi qu'à un moment ou à un autre, le pharmacien gestionnaire ou bien les RH qui l'accompagnent dans la gestion de cette situation veuillent rencontrer le pharmacien pour avoir sa version des faits. À ce moment-là, le pharmacien a le droit d'être accompagné par un représentant de l'APES et on vous conseille fortement de nous contacter pour être accompagné dans ce type de situation. Toujours dans notre exemple, si l'ATP juge que le comportement harcelant perdure malgré toutes ces étapes, alors il dispose aussi de recours. Il a le choix, en fait, entre deux recours. Le premier, c'est de déposer un grief contre l'établissement pour faire cesser le harcèlement psychologique. Comme le grief est déposé contre l'établissement, l'établissement va évaluer si, selon lui, il y a effectivement ou non du harcèlement psychologique. Si son évaluation, c'est qu'il n'y en a pas, alors le syndicat des ATP et les représentants de l'établissement vont aller en débattre devant un arbitre de grief. On peut penser que, dans le cadre de cette audition, le pharmacien va être appelé à témoigner pour le bénéfice de l'établissement. Vu que le présumé harceleur est un pharmacien qui est membre du CMDP, l'ATP dispose d'un autre recours. En fait, il peut décider de déposer une plainte au commissaire local à la qualité des services et aux plaintes de l'établissement, qui peut mener ultimement à l'imposition d'une mesure disciplinaire au pharmacien. Sur le sujet, vous pourrez retrouver toute l'information détaillée sur ce processus en écoutant la formation audio qui porte sur les mesures disciplinaires qui est disponible dans la même section. Je vous rappelle, dans les grandes lignes, les principales étapes du processus. On a une plainte qui va être déposée au commissaire, mais qui va être immédiatement transférée à un médecin examinateur. Le médecin examinateur, lui, peut rejeter la plainte, essayer de concilier les intérêts des parties ou même la déférer au comité de discipline du CMDP. Si le comité de discipline est saisi de la plainte, alors il va l'étudier et déposer un rapport à l'exécutif du CMDP qui va alors décider de faire ou non une recommandation au CA d'imposer une mesure disciplinaire au pharmacien.
OK. Dans la situation que tu viens de nous exposer, où le pharmacien est le présumé harceleur, finalement, à quel moment la PES intervient?
Écoute, en fait, comme tu nous l'as toi-même mentionné plus tôt, avant d'intervenir dans un dossier, c'est sûr que la PES va faire une évaluation complète du dossier selon les critères que tu nous as exposés tout à l'heure. En fait, l'objectif de ça, c'est de décider si elle va intervenir ou non et si elle accompagne le pharmacien dans le processus. Maintenant qu'on a bien compris le rôle des divers intervenants dans la situation où le pharmacien est le présumé harceleur, pourrais-tu, Annie, nous en dire plus dans le cas où le harcèlement psychologique implique deux membres de la PES?
Oui, absolument. Effectivement, la troisième situation à laquelle on peut penser qu'il pourrait survenir, ce serait une situation où deux pharmaciens membres de la PES sont impliqués. Donc, on pense tant aux pharmaciens cliniciens qu'aux pharmaciens gestionnaires. En matière de harcèlement psychologique, il arrive souvent que les situations qui nous sont rapportées impliquent plusieurs pharmaciens. Par exemple, comme je viens de t'en parler, un pharmacien qui allègue subir du harcèlement de la part d'un ou de plusieurs collègues, ou encore un pharmacien qui allègue subir du harcèlement de la part d'un pharmacien gestionnaire, que ce soit un supérieur immédiat, un supérieur fonctionnel dans l'établissement. Dans un premier temps, on se rappelle que la politique en matière de harcèlement psychologique et de violence en milieu de travail de l'établissement, habituellement, ne s'appliquera pas, étant donné qu'on est en présence de deux membres du CMDP dans ce cas-là. Mais évidemment, on suggère que les démarches qui sont prévues dans cette politique-là soient quand même suivies. Donc, ce qui implique qu'il y aura dénonciation à la personne visée, donc au présumé harceleur de son comportement qu'on juge inapproprié. Et ensuite, il y aura dénonciation par la personne qui se sent harcelée à son supérieur immédiat.
OK, mais qu'est-ce qui arrive quand c'est le supérieur immédiat qui est le présumé harceleur?
Bien, à ce moment-là, évidemment, c'est un peu plus complexe. Le pharmacien va devoir communiquer avec le chef de département de pharmacie ou si c'est le chef de département qui est en cause dans cette situation-là, bien, avec le directeur des services professionnels ou les ressources humaines, selon la façon dont le pharmacien est à l'aise avec tout ça. Encore là, le rôle du chef de département ou de l'établissement dans cette situation-là est de faire cesser le harcèlement psychologique, comme on se l'est dit plus tôt. En ce qui concerne les recours possibles pour cette situation particulière, bien, ce sont ceux qui ont été encore là exposés plus tôt. Donc, il peut y avoir une plainte au commissaire local à la qualité des services et aux plaintes qui va mener ultimement là, à un comité de discipline du CMDP. Ou il peut y avoir le dépôt par la PES d'un différend pour forcer l'établissement à réagir et à faire cesser le harcèlement psychologique.
Et là, puisque toutes ces personnes sont des membres envers qui l'association a un devoir de représentation, je comprends, puis c'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt, que l'APES a décidé d'adopter un complément de politique spécifiquement sur le harcèlement psychologique. Peux-tu nous dire ce que ce complément contient?
Oui, mais principalement, ce que le complément prévoit, c'est qu'une enquête doit être systématiquement réalisée par l'APES quand il y a une situation de harcèlement psychologique présumé entre deux membres de l'association. L'objectif de l'enquête, ça va être de déterminer évidemment les chances de succès d'un recours en matière de harcèlement psychologique et de guider la PES dans sa décision d'introduire ou non un recours. Ça peut être réalisé, cette enquête-là, soit par un avocat de la PES, soit par un tiers mandaté ou même conjointement avec l'employeur lorsque c'est possible. L'enquête va se faire auprès du membre plaignant, donc celui qui juge être harcelé, également auprès du membre visé par la plainte, donc le présumé harceleur, et de toute autre personne dont la PES va juger le témoignage pertinent. Si l'enquête permet de conclure qu'une plainte de harcèlement aurait des chances de succès, alors la PES va continuer d'accompagner le membre dont les intérêts sont préjudiciés, soit le membre qui se dit être victime de harcèlement psychologique.
Alors voilà ce qui conclut notre capsule audio sur le harcèlement psychologique aujourd'hui. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. N'oubliez surtout pas que chaque situation est unique, alors n'hésitez pas à nous contacter à la PES pour qu'on vous donne des conseils qui sont appropriés quant à votre situation particulière, qu'on puisse vous expliquer les différents types de recours et aussi les délais qui sont associés aux situations de harcèlement psychologique. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt!
À bientôt!